journal des auditeurs avec Stéphane Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient. Aujourd'hui, lundi, nous parlons des enjeux de l'élection présidentielle à Madagascar. 36 candidats ont été retenus. Le premier tour aura lieu le 7 novembre prochain. Alors que de nombreuses crises ont marqué la vie politique malgache depuis 10 ans, quels sont les enjeux de cette prochaine élection? Que pensez-vous de ces multiples candidatures? Nous en parlerons dans quelques instants avec James Ramarson, il est journaliste indépendant, il sera avec nous en ligne depuis Antananarive. Appelez-nous maintenant pour participer, je rappelle le numéro, le 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00 pour intervenir. Mais avant de parler du sujet du jour, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissé sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour Africa numéro 1. Nous, les peuples maliens et des maliennes, on remercie tous les Maliens qui s'est mobilisé samedi, le monde entier, que se trouvent les Maliens, qu'ils ont sorti pour manifester contre la fraude électorale. On remercie tout le monde, tous les hommes et toutes les femmes qui sont sortis samedi. Moi, je m'adresse au peuple malien. Le combat n'est pas encore commencé. Le Soumaïla, on va investir Soumaïla le 4 septembre. Il sera le président de la République des Maliens. Le peuple malien qu'ils ont choisi Soumaïla, il sera le président des Maliens. Je dis, les Maliens ne baissent pas les bras. Le combat n'est pas encore commencé. Maliens, on va prendre nos destins en main. Que Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse le Mali. Merci, au revoir.
Bonjour amis de JDA, c'est M. Gabi. Bonjour Stéphanie. Bon, je vais parler des manifestations de samedi. Vraiment, ça a été un succès. Je remercie tous les Maliens et Maliennes qui sont vraiment venus massivement à Bastille et République. Vraiment, ça a été noir du monde. Je remercie beaucoup de nos frères et nos sœurs ivoiriens qui nous ont rejoints. Vraiment, je remercie beaucoup qui nous ont rejoints. Nos frères, nos sœurs sénégalais qui nous ont rejoints ces manifestations, je remercie beaucoup, vraiment, franchement. Ça a été un succès de dire non, nous a volé, Boubacar Keïta nous a volé nos victoires. Nous a volé ce vieux dictateur qui nous a volé nos victoires. Je vais parler à M. Gira qui a dit que tout ce qu'il reçoit, les gens qui descendent ces manifestations qui n'ont pas de papier, la France, ce n'est pas un pays dictateur. La France, c'est un pays de paix. Si tu ne connaissais pas ce que M. Gérard, ce qu'on voulait te dire aujourd'hui, la France, c'est un pays de paix. Vous avez fait peur aux gens de dire que si vous venez en manifestation, vous allez retrouver à Bamako. La France, ce n'est pas un pays sauvage. Merci, ami de JDA, c'est M. Gabi.
Oui, bonjour. Voilà, donc après avoir écouté la confirmation des élections en Zimbabwe et du Mali, j'ai fini pour me poser la question, est-ce que l'ancien président français n'avait pas raison quand il a dit que l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie? Peut-être qu'il faut un début pour tout. Mais quand on fait les remarques, on verra que les élections en Afrique, ça ne porte que de malheur, en tout cas au peuple africain. Ce n'est pas pour décourager les partisans de M. Ismaïla Cissé, mais je ne suis pas sûr que les choses vont revenir en arrière. Et je pense que la Cour constitutionnelle il va maintenir, n'est-ce pas, les résultats, comme au Zimbabwe. Alors, on voit en Afrique, plus souvent, les élections ils n'apportent rien du tout. On dit aussi qu'il n'est pas possible qu'un président qui est en poste, qu'il n'est pas possible qu'il perde les élections. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans ces cas-là, qu'on organise les élections. Si ce n'est pas pour gaspiller l'argent et pour créer encore davantage de conflits, je pense que nous, les Africains, on n'en a pas besoin. Peut-être qu'il est temps que nous réfléchissions pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer la situation de notre pays en matière de la démocratie. Merci, à bientôt.
Bonjour, amis auditeurs. Je voulais parler aux partisans de Dramane Ouattara. Quand il y en a un qui dit comme ça que Simone Gbagbo a quitté la Côte d'Ivoire, mais elle n'a qu'à se dire que la CPI la poursuit. Moi, je dis que c'est ridicule. La CPI a fini de juger ceux qu'ils ont pris. Et quand il parle comme ça, il a pensé aux criminels qui se promènent en Côte d'Ivoire là-bas, qui ne se cachent même pas. Il les a oubliés. Il a oublié que la Côte d'Ivoire a été attaquée et que ça a été une agression politique. Il a oublié ça. Mais je le comprends. Parce que si la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens se réconcilient, eux là, c'est pas bon pour eux. Mais c'est pas parce que tes parents ont immigré en Côte d'Ivoire depuis belle lurette que tu vas te permettre tout ce que tu veux. Vous avez le droit de tuer, massacrer et puis accuser d'autres. Et il y en a même qui font la prison pour ce qu'ils n'ont pas fait. Et ça vous fait plaisir. Le fait de libérer Simone et Yves, vous n'êtes pas contents. Tout le monde est en colère. Laissez-nous notre Côte d'Ivoire. Il y a quel problème? Carrément. Ce pays la poursuit. Mais vos gars là, vos criminels là, à visage découvert là, qui les poursuit aussi? Des incrédules que vous êtes.
Oui, bonjour amis de JDA et bonjour Madame Stéphane Atman. Congolais et Congolaises de la RDC, soyons unis, car c'est dans l'unité qu'on peut gagner les combats. La RDC, avant l'indépendance, était vraiment un beau pays. Et c'était la République démocratique du Congo. Mais en 2001, et depuis l'arrivée de la AFDEL, la RDC est devenue République démocratique de Congo, car le pays est dirigé par des occupants. Aujourd'hui, les élections présidentielles, on ne peut pas aller comme ça parce que le pays est non sans identité. Et il nous faut un grand recensement. Pour l'instant, les élections présidentielles, non. La transition, oui, est sans Kabila. Merci. C'est un faux moment. Ciao.
Oui, cher ami du JDA et Madame Atman, bonjour. Je me permets d'intervenir aujourd'hui. C'est parce que je ne suis pas surpris d'apprendre que Jean-Pierre Bemba a été disqualifié pour l'élection. J'ai l'impression que au Congo on va faire du Poutine. Là, Ramazan il va passer, après Kabila il va passer encore premier ministre et puis c'est reparti. Dieu donné Kassongo, voici ma modeste contribution. À très bientôt. Bien des choses à tous. Ciao, ciao. Et bon retour.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 00 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux de la prochaine élection présidentielle à Madagascar. 36 candidats pourront prétendre à la magistrature suprême, dont 3 anciens présidents. Le premier tour aura lieu le 7 novembre prochain, alors que de nombreuses crises ont marqué la vie politique malgache depuis 10 ans. Quels sont les enjeux de cette prochaine élection? Que pensez-vous de ces multiples candidatures? Nous en parlons tout de suite avec James Ramarson. Il est journaliste indépendant en ligne depuis Antananarivo. James Ramarson, bonjour.
Bonjour, merci. Stéphanie.
Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Première question, James. Tout d'abord, ils étaient plus de 40, 49 je crois, à vouloir briguer la candidature suprême. La Haute Cour constitutionnelle n'en a retenu finalement que 36 candidats. Comment expliquez-vous cette pléthore de candidats?
Oui, donc par rapport aux précédentes élections, donc en 2013, le record de 33 candidats est battu avec ce 36 candidats. Ce pléthore de participation est difficilement à juger puisque il y a tout d'abord le retour des trois anciennes personnalités qui se sont occupées le terrain depuis une dizaine d'années. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de nouvelles têtes qui arrivent. Et ça met en place, c'est-à-dire le choix démocratique de Madagascar, est-ce avec un nombre si nombreux, ça risque de, disons, mettre en erreur la marche vers la démocratie, dans le sens que pas mal de ces 36 candidats, il n'y a pas, il y a tout d'abord 3 anciens chefs d'État, et avec l'actuel président de la République, donc il y a 4 présidents, il y a 3 anciens premiers ministres et un chef d'institution qui est le président de l'Assemblée nationale actuelle. Il y a 6 anciens ministres, donc vous vous rendez compte qu'au moins il y a une quinzaine de personnalités politiques qui ont déjà mis leurs mains dans la gestion du pays. Est-ce bon, est-ce mal, c'est relativement. Mais je pense que cela va mettre les électeurs malgaches dans l'embarras, puisque faute de sondages aussi, bon, des sondages bien structurés, les médias sont quasiment focalisés sur les trois personnalités qu'on dit à tort et à raison des favoris. Et alors qu'il y a pas mal de gens qui viennent, il y a des novices, il y a un artiste, il y a des jeunes qui sont donc dans la course. Donc c'est difficilement à maîtriser. Je pense que c'est sur le poids de la démocratie malgache qui se cherche encore qu'on peut qualifier ce nombre. Cette pléthore de candidats.
On entend bien que les électeurs malgaches devront faire un choix entre les anciens, hein, dirons-nous, hein, parmi les candidats, et les novices. Vous l'avez évoqué, hein, James Ramorson, parmi ces candidatures, plusieurs anciens dirigeants, Marc Ravalomanana, hein, chassé en 2009, Ange Rajouel, qui a été un président de la haute autorité de transition, et enfin, hein, le président sortant, Eri Rajaonarimampianina, qui lui a été au cœur d'une contestation il y a quelques mois. Comment ces anciens dirigeants justifient leur candidature alors qu'ils ont déjà gouverné? Je pense notamment pour Marc Ravalomanana et Ange Rajouel.
Oui, mais non, mais ce sont les go des politiciens. Déjà depuis, ils sont. Marc Ravalomanana n'a pas pu terminer sur ce second mandat. Il ne faut pas oublier que. En août 2008, les bailleurs de fonds, les institutions de Bretton Woods ont suspendu le financement de Marc Ravalomanana pour gouvernance économique. Et c'est en ce moment-là, donc, lui, il n'a pas vu les choses venir, mais dès cette date-là, je sais que son sort est scellé, puisque dans un pays qui est encore à la sortie du sous-développement, vous voyez que sans l'appui et le financement des bailleurs, on a eu du mal à bien mener tous les programmes. André Duel était là, et comme on a vu, donc, c'est durant la transition, une transition qui est considérée comme un mandat entier, puisqu'il était là jusqu'à durant 4 ans. Et là, il se dit ne pas pu faire, n'ayant pas pu terminer son projet, puisqu'il n'y a pas eu de financement des bailleurs. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est durant son temps, notamment sur l'histoire de bois précieux, qu'il y a eu l'affaire du trafic de bois de rose qui fait l'objet de différentes conversations actuellement dans la capitale, suite à un rapport sorti par une ONG internationale relayé par Transparency International et ONG Voirgas, qui ont carrément réclamé auprès de la Haute Cour constitutionnelle la disqualification de ces deux personnalités, y compris aussi de Ravalomanana, puisque Ravalomanana, ne faut pas l'oublier, a été le ministre des Finances de la Transition et il a été signateur d'un arrêté ministériel qui a autorisé donc l'exploitation de bois de rose.
Une espèce en voie d'extinction. On va y revenir dans quelques instants, James Ramarson, cette question du trafic de bois de rose. Restez à l'écoute, chers confrères. On se dirige vers le standard. Quelques auditeurs vont intervenir. On commence avec Émile, qui est en France, je pense. Émile, bonjour.
Bonjour, bonjour Stéphanie.
Bonjour Émile, vous vouliez revenir peut-être sur l'opposition, alors peut-être pas malgache, mais les oppositions en général, c'est-à-dire?
Oui, les oppositions en général en Afrique, quand vous voyez vous voyez partout, parce qu'il faut suivre l'actualité africaine, vous allez voir que les opposants sont dispersés, ils sont dispersés. Donc ce n'est pas en dernière minute, à la veille des élections, qu'ils font semblant de faire des revendications et qu'on sort. Donc les élections se préparent. Une fois qu'il y a un nouveau président élu, il a un mandat de 5 ans ou de 7 ans, il faut commencer déjà à préparer les prochaines élections. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas en dernière minute, vous êtes dispersés. Celui qui est au pouvoir, ils ont l'argent. Donc, ils vont vous broyer parce que vous êtes dispersés déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple Quand je regarde l'actualité, même au Cameroun, c'est la même chose. Je vois en RDC, c'est la même chose. On a vu ça au Mali dernièrement, c'est la même chose. Donc, en Afrique, les politiciens doivent faire un effort. Quand ils sont dans l'opposition, il faut qu'ils se préparent. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme un jeu de cartes, en fait. La politique, c'est un jeu de cartes. Ce n'est pas question que moi, je veux devenir président. Dans la vie, il y a des gens qui ne seront jamais présidents. Donc, parfois, il faut s'aider. Il faut s'aider. C'est-à-dire que vous faites des réunions et essayez de vous entendre pour que les prochaines élections, qui peut, parmi vous, les opposants, ils sont intelligents. Dire qu'ils sont pas, ils ont quand même été à l'école. Nous, on est des petits peuples. On voit ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Vous allez m'excuser, par exemple, en RDC, vous allez voir que dans l'opposition, ils n'ont même pas eu de porte-parole de l'opposition à l'Assemblée.
Bon, on va voir, Émile. Merci, Émile, pour votre intervention. On aura l'occasion, d'ailleurs, de revenir sur le Cameroun, mais aussi sur la RDC demain, notamment avec le rejet de plusieurs candidatures. James Ramorson, je reviens vers vous. Émile faisait état d'un schéma qui opposait un pouvoir indéboulonnable d'un côté, une opposition dispersée de l'autre. Ma première question était de savoir si ce schéma s'appliquait à Madagascar. Je ne crois pas. Et ma deuxième question, ce sera parmi ces 36 candidatures, est-ce que des alliances sont possibles ?
Bon, pour la première question, il faut tenir, faut informer les auditeurs que depuis le mois de juin dernier, donc il y a plus ou moins un changement à Madagascar, dans le sens qu'après un mouvement mené par des parlementaires qui a réclamé la destitution du président de la République, il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Donc, actuellement, la majorité des partis qui bougent sont dans un gouvernement qu'on appelle donc un gouvernement de consensus qui va comme principale mission de tenir les élections présidentielles. Mm. Et donc là, il faut dire qu'actuellement, c'est un premier ministre. Il y a des gens de Marc Ravalomanon. Il y a aussi des personnalités de André Duel qui siègent dans ce gouvernement de consensus qui va participer aux élections. Mmh. Tenant compte de la deuxième question, comme il y a le nombre, il y a 36 personnes, donc cela signifie que les élections ne se terminent pas pour le premier tour. Mmh. Il y aura certainement donc un second tour. Et c'est cela qu'il y aura forcément une alliance, mais reste à savoir, ça tiendra beaucoup compte des résultats du premier tour. Et moi, je pense que parmi les 36 candidats, il n'y aura pas quelqu'un qui pourrait avoir 25%. En 2013, le premier candidat au premier tour, donc c'est un candidat proche de Marc Ravalomanon, Jean-Louis Robinson, il a gagné 21%. En ce moment-là, ils étaient 33 au départ. Mmh. Donc cette fois-ci, avec 36, sûrement c'est peut-être 20. Je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui aura 20 ou 25. Donc l'alliance sera forcément existante. Mmh.
Alors justement, la dernière élection, l'actuel président Herri Rajaonari Mampianinana avait été soutenu par l'ancien dirigeant André Duel. À cette élection, tous les deux sont candidats. Est-ce qu'il y a des camps vraiment définis dans la vie politique malgache où finalement les lignes de démarcation sont plutôt mouvantes entre les uns et les autres ?
Si, c'est très mouvant, puisque il ne faut pas oublier, comme Stéphanie vient de le rappeler tout à l'heure, Pierre Adjonar Mapian ne s'est pas préparé dans une élection présidentielle puisqu'il n'a pas. Il est en réalité candidat de substitution. Puisque la Cour électorale spéciale, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle en quelque sorte, a disqualifié des différentes personnalités. Donc c'est en ce moment-là que André Duel n'a pas été dans la liste. Et puis donc c'est hier qui s'est présenté. Mais dès que un mois après son élection, il a carrément, ils ont claqué la porte avec l'alliance avec Kianche. Et puis ça rappelle donc l'explication d'Emile tout à l'heure, comme quoi pour être au pouvoir, il faut se préparer. Et c'est là que Méhiri a commencé encore à mettre en place sa structure, son propre parti, l'UHVM. Mm-hmm. Et il y a même actuellement, il y a un ministre de l'Éducation nationale qui a été parmi les fondateurs de l'UHVM, Paul Rabat, qui n'a pas été reconduit dans le gouvernement de consensus, qui a aussi démissionné du parti et s'est présenté au présidentiel du 7 novembre. Mm. Donc là, en quelque sorte, est-ce que l'UHVM est-il vraiment un parti qui se respecte, c'est-à-dire dans cet esprit de conviction et d'organisation? Là, donc, tout récemment, avant la déclaration du président Héry, c'est là que l'UHVM a réussi à mettre différents congrès régionaux. Donc, il y a quand même de nomadisme politique et c'est mouvant, quoi.
Merci à James Ramarson. Restez à l'écoute. On remercie aussi Émile hein, qui nous appelait depuis Paris. Je crois qu'on va se rendre à Conakry pour écouter Tierno. Tierno, bonjour. Oh là là, je ne pense pas qu'on va pouvoir écouter Tierno parce que la ligne n'est pas très bonne. Tierno, vous nous entendez? Oui. Malheureusement, la ligne n'est pas très bonne à Conakry. Alors, je vais vous dire hein, ce que voulait dire Tierno puisqu'il a laissé un message sur notre page Facebook. Il a dit 37 candidats hein, pour combien de millions d'électeurs? Vu le nombre de candidats, il y a forcément quoi à craindre pour que ça prouve suffisamment qu'il n'y a pas d'entente entre les élites malgaches. C'est très dommage. Alors justement, James Ramarson, puisque Tierno parlait des élites malgaches, on en a évoqué tout à l'heure un rapport de l'OCCRP, une organisation hein, de lutte contre la corruption, fait état d'une application de ses anciens dirigeants hein, que vous avez cité tout à l'heure dans le trafic de bois de rose, des accusations dont vous vous faites l'écho d'ailleurs. Je dois le citer sur le site AfriqueProgrès.com. Dans quelle mesure, James Ramarson, le trafic de bois de rose, une espèce en voie d'extinction, finance-t-il la vie politique malgache?
Là, c'est justement... Bon, le rapport est sorti tout récemment et par coïncidence, c'est à un moment de préélectoral, puisque d'ici 2 mois, c'est le début de la campagne proprement dite. Donc, il y a déjà aussi une chaîne spéciale sur le bois de rose. La question qui se pose actuellement, donc, quelle suite à donner maintenant? Bon, les 3 candidats cités dans le rapport, et je pense que la Haute Cour constitutionnelle a déjà sorti son avis. Il ne va pas sûrement revenir sur cet aspect. Mais est-ce que le tribunal spécial sur le bois de rose peut-il procéder à une saisine? C'est-à-dire, peut-il enclencher dès maintenant la procédure d'instruction pour ces personnes nommément citées? Sinon, l'annonce fracassante de Transparency International et de Voir Gaz rassemble du bluff. Sinon, donc... d'une déstabilisation de l'État malgache. Et c'est un peu gros car pour sortir de telles accusations, si on a des preuves, donc le lien entre le blanchiment et le financement de campagne aussi, suscite les inquiétudes et interrogations des autres de la population.
Bien sûr.
L'opinion attend donc la Transparency internationale et Voir Gaz sont en quelque sorte acculés à donner d'amples informations.
Donner les preuves de ce qu'ils avancent. Alors, les chercheurs hein, du Centre de développement, institution et mondialisation mondiale, Mireille Raza, Fine Dracotto, François Roubaud et Jean-Michel Wachberger, hein, qui sont les auteurs d'un livre, L'énigme et le paradoxe, estiment hein, que l'économie malgache est une économie de rapine avec des rentes faciles à prélever sur les ressources naturelles ou l'aide extérieure. Tout décollage économique suscite des jalousies au sein des clans d'une hyper-élite de 10 000 personnes, nous disent ces chercheurs. Est-ce que vous partagez ce constat?
Non, leur recherche, c'est donc une recherche scientifique que Mireille et Roubaud ont entamée depuis quelques temps. Mais là aussi, je tiens à signaler la faiblesse de la société civile malgache de bien réagir devant une situation analogue. Et il ne faut pas oublier que ça, une partie de vérité, c'est qu'ils ont sortis dans leurs recherches.
Reste à l'écoute, James Ramarsson. On retourne aux côtés du standard. Écoutez, Ousmane et Ozana, on commence par Ousmane qui a une question pour vous, je crois. Ousmane, bonjour.
Bonjour. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, monsieur James. Oui. Je voudrais vous poser une question qui m'a fait tilt. Comment se fait-il que chez vous, au Madagascar, le président doit démissionner, je crois, deux mois, quoi, le président, quand il est candidat. Est-ce pour ne pas profiter des avantages de l'État, avion présidentiel, télévision, radio, et l'intérim est assuré par qui? C'est pas par le président de l'Assemblée, que lui-même il est candidat, je crois entendre.
Excellente question, mon cher Ousmane.
Et puis, une dernière question. Monsieur Didier Ratsirak, il est très très âgé. Pourquoi se présente-t-il? Je crois qu'il a même des problèmes avec la justice ou quelque chose comme ça. Hein.
Restez à l'écoute, Ousmane. James Ramarsson va tenter de vous répondre. La démission d'Eri Rajaonari Mampianina est prévue pour début septembre, je crois, James?
Oui, oui. Donc c'est la constitution de la 4e République qui stipule que le président en exercice qui se porte à candidat doit démissionner de son poste à 60 jours avant la date de l'élection. Et puis celui qui le succède n'est pas le président de l'Assemblée nationale mais le président du Sénat qui n'est autre que le président du parti présidentiel. Donc c'est marqué dans la constitution et là, et puis bon, pour la deuxième question, c'est pour l'amiral Didier Ratsirak qui a 82 ans, bon, il est âgé, mais faut pas oublier que c'est une personnalité qui est un fait stratège et il a déposé sa candidature le dernier. Déjà dans la liste des candidats auparavant, il y a déjà son neveu, Roland Ratsirak, qui a été ministre de l'Irrégional Mapian. Et bon, un ancien socialiste marxiste, bon, comme lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Il ne faut pas aussi oublier que Didier Ratsirak a été reçu tout récemment par Vladimir Poutine. Et donc, la Russie est plus ou moins en embuscade. Dans cette histoire des élections malgaches, selon un jour quotidien ici, pour damer les pions aux Occidentaux, sans oublier la Chine qui est le principal acheteur de bois de rose. Et le circuit commercial de ce trafic n'a pas plu aux bailleurs traditionnels, bon, puisqu'ils se sont à côté de la plaque, mais ce sont la Chine et les Émirats arabes qui s'intéressent beaucoup dans cette affaire du bois de rose. Didier Ratsirak n'a pas un problème de justice puisqu'il a réussi lors des discussions durant la transition à être... il n'a pas eu plus de problème à la justice puisque se sont réglés dans des négociations par l'Union africaine avant la mise en place calmement de la transition. Il y a eu différentes rencontres à l'extérieur qui ont été menées par Joaquim Chissano, l'ancien président de Mozambique. Il s'est blanchi donc après dans les négociations internationales.
C'était amnistié. Merci James Ramarsson. Restez encore à l'écoute. On écoute un dernier auditeur comme promis, Ozana depuis Djamena au Tchad. Ozana, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à votre invité.
Bonjour Ozana, vous vouliez faire le procès des élections sur le continent africain.
Oui, moi, permettez d'abord de revenir un pas en arrière sur ce nombre élevé de candidats. Et pour ça, je dirais que c'est les intérêts égoïstes qui expliquent ces pléthores de candidatures. Hein, les gens visent d'abord leur avantage et parfois ils n'ont pas un programme pour la population. Et donc, je pense que les élections en Afrique deviennent autre chose. Et les élections perdent même leur valeur puisque tout le monde veut diriger. Et c'est ce qui provoque aussi parfois des crises post-électorales. Donc, je propose qu'on copie un peu le système américain. Ah, pourquoi pas avoir deux partis seulement. Et je pense qu'on a aussi des problèmes en Afrique dans nos taxes, quoi. Donc, si on peut essayer de revoir la Constitution, faut qu'il y ait seulement deux partis, tels que les républicains et les démocrates aux États-Unis. Donc, deux mandats après le président au pouvoir s'en va et puis on organise une autre élection. Alors l'opposition doit s'attendre pour faire les élections primaires afin de désigner ou d'élire les candidats uniques qui va faire face aux candidats du pouvoir et qui serait lui aussi choisi lors des primaires. Et comme ça, on ne va pas arriver à des désordres. Ces individus qui se bousculent pour le sauter présidentiel, ils dans l'intention de se rendre vachement riches et mettre leur population, et mettre leurs proches et leurs parents à l'aise. Et non pour le bien-être de la population, donc je crois qu'on peut, il faut qu'on change un peu la façon de la vision d'organisation de nos élections en Afrique, sinon je pense qu'on est en train de se diriger vraiment vers dans l'avenir, la génération future va avoir beaucoup de problèmes.
Merci, Hosanna, merci. On entend hein, que pour vous, hein, les élections, ça peut être source d'instabilité et de crise, hein, que préconiser un système bipartisan à l'américaine. James Ramarson, une toute dernière question avec une réponse très rapide. Marc Ravalomanana a tenu hein, son premier meeting ce week-end, je crois. Quels ont été les thèmes qu'il a abordés rapidement ?
Bon, ce n'est pas son premier meeting, mais c'est pour lui la manière, une manière de gérer le meeting dans la capitale. Et puis, donc, il a fait un petit peu un discours nationaliste. Il a rappelé aux entrepreneurs et aux opérateurs investisseurs de respecter les textes à Madagascar. Bon, il a fait aussi des discours d'apaisement auprès des officiers et militaires qui ont été donc victimes lors de 2009. Il a essayé un peu de rester large, puisque non seulement il n'est pas représenté par son parti, mais il a mis en place un comité de soutien. Il a essayé d'avoir cœur du peuple.
Merci James Ramarson d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Et puis, sur le plan économique, c'est un article des Échos publié en mars 2018. La grande île, Madagascar, est l'un des rares pays où la pauvreté s'accroît selon les indicateurs. Les Échos écrivaient ceci, Madagascar est le seul pays au monde où le revenu par habitant a reculé en dollars constants et de 30% qui plus est. Depuis 1960, l'année de son indépendance, nul doute que les questions économiques seront au cœur de cette prochaine élection présidentielle. Merci encore à notre invité, James Ramarson. Il était avec nous en ligne depuis Antananarive. Merci à tous de votre participation, chers auditeurs. C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez continuer le débat sur notre page Facebook, facebook.com/Journal des auditeurs ou via notre compte Twitter @jauditeur. Nous attendons vos messages, nous les lirons sans nul doute demain. Demain, dans le journal des auditeurs, nous parlerons d'une autre élection et d'autres candidatures, notamment des candidatures rejetées en République démocratique du Congo. Vous le savez, la CENI a rejeté 6 candidatures, dont celle de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Nous en parlerons demain. N'hésitez pas à vous inscrire en laissant un message sur le répondeur 00 33 1 55 07 58 05 ou en nous envoyant un mail. La boîte mail de l'émission, c'est JDA comme journal des auditeurs, jda@africa1.com. Prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique radio africaine. À demain.